Là, je vous partage mon écran. Vous me direz si vous le voyez. Et quand je le mets en présentation comme ça, est-ce que c'est bon?
Là, tu l'as. Oui, c'est parfait, c'est bon.
OK, super. Alors, par contre, il faut que je mette les gens en tout petit. Voilà, impeccable. OK, donc, l'idée, c'était de parler pour ce premier webinaire du biologging et donc, en fait, de définir ce que. L'historique un peu, d'où vient le biologging, comment on le définit, quels sont ses contours, à quoi il sert. Pour beaucoup, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà et puis qui vont vous barber, hein, mais bon, je vais essayer de rendre ça le plus didactique possible. Donc, effectivement, voir ce qu'ils voient, les animaux capteurs, ou comment le biologging a ouvert un champ des possibles. En fait, c'était trois titres mélangés que Serge n'arrivait pas à se décider sur le. Celui qu'on devait choisir. Donc, on a laissé les trois ensemble dans un espèce de mix imbitable, mais bon, qui a bien le mérite de dire un peu tout ce qu'on veut dire dans cette présentation. Donc, pour commencer, alors est-ce que ça passe, les dia? Non, ça ne passe pas, il faut que je clique. OK. D'abord, est-ce qu'on parle de biotélémétrie quand on parle de biologging? Bah, pas vraiment, parce que la télémétrie, comme vous le savez tous, c'est la technologie qui permet de mesurer des données. À distance, quoi, en fait, d'envoyer des données à distance. Et c'est quelque chose je dirais, qui est un peu à l'origine du biologging, dans le sens où c'était les premiers appareils qui ont été autonomes, déposés sur des entités vivantes, des organismes vivants, c'était de la biotélémétrie. Donc, on pense effectivement à la recherche en biomédicale, la télémétrie, ce que j'appelle humaine, la télémétrie pour la faune sauvage aussi, mais donc tout ce qui était suivi par satellite des animaux, qui a commencé dans les années 80-90. Donc ça, c'est pour ça que les gens souvent confondent biologing et biotélémétrie. Il y avait même une société de la biotélémétrie, l'International Society on Biotelemetry, qui, aux dernières nouvelles, n'est pas très, très active, puisque les dernières fois où je suis allé sur le site, j'avais même du mal à trouver le site. Il apparaissait seulement dans des archives de sites. Alors, le biologging, donc en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Le concept à la base, comme il a été défini dans plusieurs revues et plusieurs journaux qui se sont intéressés au sujet. C'est l'idée d'attacher en fait des appareils qui vont enregistrer des données physiques ou biologiques, voire même chimiques, de manière autonome, donc indépendamment de sources de transfert de données. Une autre définition met l'accent sur le fait que, avec ce genre d'approche, ben, on n'est pas limité par le nombre de données que l'on peut prendre et qu'on peut donc générer. Millions of data points, comme c'est écrit ici, hein, mais en fait, ça c'est déjà même un peu ancien comme vision, parce que là, on arrive presque à du big data quand on commence à parler certains types de données. Et surtout, c'est la définition que j'aime bien ici, qui est un peu plus conceptuelle, c'est qu'en fait, on va aller suivre des phénomènes qui sont au-delà de notre capacité à les voir ou à les expérimenter ou à les sentir. Donc, c'est effectivement une approche qui s'affranchit en fait du milieu dans lequel l'animal évolue. Bon, là, j'ai mis une petite vision éclatée parce que bon, voilà, il fallait mettre quelque chose qui ressemblait un peu à de la technique, mais ce n'est pas très intéressant pour nous ici. Donc, en gros, la biotélémétrie et le biologging, c'est bien deux approches. D'un côté, le biologging, c'est quasi continu, dans le sens où on peut enregistrer à des infrasecondes les données, alors que la biotélémétrie est discontinue, puisque les données doivent être stockées, envoyées, et donc ça se fait par package. Le biologging, du coup, est applicable potentiellement partout. Alors, ça dépend évidemment du type de paramètres que l'on mesure. Certains paramètres ne peuvent pas être mesurés partout ou à n'importe quel moment. Mais en tout cas, le principe fait qu'on peut enregistrer sous la glace, dans la canopée, dans un terrier. On peut mesurer toutes ces informations n'importe où. Alors que la biotélémétrie, bah, comme je l'ai dit par rapport à la glace de mer, par rapport à la canopée, ça peut être interrompu facilement. L'autre intérêt du biologging par rapport à la biotélémétrie, c'est que les mesures sont prises en fait à des échelles d'espace et de temps qui sont immédiates, qui sont proches de l'individu. C'est pas comme pour donner un ordre d'idée, on n'essaye pas par exemple de relier un trajet mesuré par satellite, donc avec des points à certains endroits, avec des mesures prises par télémétrie satellitaire qui va être à une échelle de temps ou à une échelle d'espace qui est un petit peu différente de celle à laquelle l'animal se trouve. Là, quand on prend une mesure de la température, elle est immédiate, c'est celle que l'animal expérimente. Par contre, le côté, je dirais, un peu négatif du biologging, c'est qu'il faut deux captures, puisque normalement, vous mettez l'appareil sur l'animal, mais si vous voulez avoir accès aux données, il faut le recapturer pour pouvoir télécharger les données qui sont dans la mémoire. Mais en fait, ces deux approches se rejoignent, puisque maintenant, on a des systèmes qui sont mixtes, qui vont servir en fait en mode biologging pendant un moment, et quand il y aura des fenêtres d'opportunité, pourront envoyer les données, donc devenant ainsi des biotélémètres, je ne sais pas comment ça se dit, mais enfin des appareils de biotélémétrie. Et donc, on peut arriver à avoir le meilleur des deux mondes. Alors, le biologging, il a une origine qui est marine et polaire, donc ça nous arrange bien au GDR, puisqu'on parle essentiellement d'océan, puisqu'en fait, tous les phénomènes qui étaient mesurés par notamment les biologistes au début des années 60, par exemple, se faisaient à terre. À terre, on a accès aux colonies, on peut mesurer le nombre d'individus qui se reproduisent, le nombre de descendants qu'ils produisent, etc. Et on essaie de relier ça en fait, à des grandes variations climatiques, environnementales, mais c'est sur des pas de temps qui sont très longs, à l'échelle d'une année, à l'échelle d'une saison, des choses comme ça. Et en fait, on sait que la plupart des animaux qui dépendent du milieu marin, comme les manchots, ils vont en fait se nourrir sur des ressources marines qui sont impactées, non pas à terre, mais qui sont impactées en mer. Et donc l'idée, ça a été d'aller voir ce qui se passait en mer, puisqu'on ne pouvait pas suivre des animaux comme les manchots, notamment. Hein. Alors, vous aurez compris que je travaille sur les manchots et que c'est pour ça que je vais en parler beaucoup. Les manchots, ça plonge à quelquefois pour les meilleurs à plusieurs centaines de mètres, ça va à des centaines de kilomètres du rivage. Et donc pour savoir ce qui se passait vraiment là-bas et comprendre un peu les oscillations qu'on voyait dans les populations à terre, des chercheurs ont eu l'idée de mettre des appareils sur le dos des animaux. Donc, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, la séquence classique, c'est on va attraper l'animal, on va lui coller un appareil sur le dos ou alors, dans certains cas, en implantation, sur la tête. Enfin, ça dépend un peu le type de paramètre que l'on veut mesurer. Et on le relâche pour qu'il aille faire sa vie en mer et nous donne des informations à son retour. Alors là, l'image, elle est classique pour ceux qui travaillent sur les oiseaux. Quand on travaille sur des animaux comme les orques, ça demande un peu plus de technicité et de patience. Alors ça, c'est une photo qui a été prise à l'île Marion dans le subantarctique. Et vous voyez une arbalète qui envoie en fait une sonde qui va aller se coller sur la nageoire dorsale d'un orque. Donc c'est Ryan Reisinger qui a été un grand spécialiste de ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a passé des jours, des semaines, voire des mois sur son petit bout de rocher à attendre qu'un orque passe à bonne distance pour pouvoir les taguer. Donc, ce n'est pas du tout la même approche quand on bosse sur une colonie de milliers de manchots. Donc, un peu d'historique rapidement. La première fois où on a choisi de dire que le biologging est né, c'est en 1940, lorsque Peirce Schoelander a décidé en fait de mettre une sonde capillaire sur une baleine à bosse sur une baleine qui venait d'être harponnée sur un bateau de pêche sur un baleinier pour lorsqu'elle est relâchée avec son harpon qui la retient au bateau il puisse savoir à quelle profondeur elle plongeait. Donc, c'est une sonde capillaire, hein, c'est tout bêtement un tube dans lequel on a une solution sucrée qui va être poussée par la pression lorsque l'animal descend et s'arrêter en fait à un niveau maximal lorsque la profondeur maximale est atteinte. Et avec une graduation et puis une calibration, ça permet ensuite de savoir quelle était la profondeur à laquelle l'animal a plongé. Alors, en fait, à partir de là, on commence à avoir une possibilité de comprendre et de connaître à quelle profondeur les animaux vont, et on découvre qu'ils ont des capacités de plongée absolument extraordinaires. Je vous en ai listé quelques-uns ici. Alors, évidemment, les grands champions, ce sont les éléphants de mer et puis les baleines, les cachalots, qui vont jusqu'à 2 km de profondeur. Hein, la valeur 1653 pour l'éléphant de mer, elle a été battue en fait, depuis le moment où j'avais fait cette dia. Mais même si on ne va pas jusqu'à des kilomètres de profondeur, quand on regarde un manchot empereur qui fait une quarantaine de kilos qui est comme nous, hein, qui emmagasine de l'air puis qui va s'en servir en apnée pendant sa plongée, il va quand même à 564 mètres de profondeur. Donc, c'est quand même des choses qui sont assez extraordinaires pour nous. Alors, je fais un peu de pub. Hein, si vous voulez vous amuser à voir les capacités, les performances de plongée, aussi bien en profondeur qu'en durée pour les animaux, je vous invite à aller sur le Guinness Book of Dive Records qui recense tout ça. Alors, on recense uniquement sur ce site les données de plongée qui sont référencées dans une revue scientifique. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des rapports qui n'ont pas été évalués par des pairs. Et ce, afin d'être sûr qu'on a bien des performances qui sont validées. Alors, la prochaine étape, c'est en 1960, quand Gerald Coyman décide en fait de développer le premier, ce qu'on appelle time depth recorder. C'est-à-dire qu'il ne va pas mesurer un point maximum de plongée, mais il veut mesurer en fait toute l'activité de plongée lorsque l'animal est sous l'eau. Et pour ça, il fait du bricolage comme on l'aime bien, comme on retrouve dans les livres un peu d'histoire de la science. C'est-à-dire qu'il va prendre le kitchen timer qui était dans sa cuisine, il va lui mettre un capteur de pression, il va faire un petit bricolage, et il va aller mettre ça sur un phoque de Weddell. Et en fait, ça va nous donner des informations nouvelles, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement, encore une fois, la profondeur maximale, très bien, mais on va avoir surtout la durée maximale de plongée. Et là, on s'aperçoit que le phoque de Weddell, par exemple, il était capable au maximum de durer 43 minutes et 20 secondes sous l'eau, sachant que, comme encore une fois, c'est un animal qui emmagasine de l'air à la surface et qui ne respire pas sous l'eau. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, surtout, c'est la première fois qu'on a une approche écophysiologique de la plongée, puisqu'on visualise le profil de plongée. On est capable de voir si c'est des profils qui ont un fond plat, donc plutôt des animaux qui vont se nourrir sur le benthos, ou au contraire des fonds en zigzag, donc plutôt caractéristiques d'un animal qui se nourrit dans la colonne d'eau. Et ça va en fait ouvrir beaucoup de nouvelles questions. Comment ils s'organisent sous l'eau, comment ils optimisent en fait les temps de descente et de remontée par rapport au temps qu'ils veulent passer au fond, quelles sont les durées de plongée aérobie, etc., etc. Donc là, c'était des travaux qui étaient pionniers à l'époque et qui étaient réalisés au Scripps aux USA. Et puis, à partir des années 80, en fait, ça va être un peu l'explosion puisqu'on va parler, on va passer de systèmes mécaniques à des systèmes digitaux. Je rajouterai juste ici une petite anecdote, c'est celle du professeur Naito, donc le professeur japonais de l'Institut Polaire au Japon, chez qui j'ai fait mes études, et qui avait un logger extraordinaire, qui était en fait un micro-papier avec un micro-stylo. Le micro-stylo était poussé par la pression de l'eau, et donc il dessinait sur le micro-papier les profils de plongée. Ensuite, quand l'appareil était récupéré, il suffisait d'agrandir dans une imprimante en format A3 pour avoir la plongée de manière analysable. Donc ça, c'était vraiment les époques, je dirais, pionnières qui étaient assez extraordinaires. Et quand on a retrouvé les rouleaux de plongée comme ça, les premiers rouleaux de plongée, c'était assez extraordinaire à voir. Mais bon, donc dans les années 80, on est passé au digital. Et là, ça a été vraiment une explosion avec de nouveaux capteurs, de nouveaux types de data, donc de nouvelles questions. Et ce n'était plus un ou deux chercheurs qui s'amusaient chacun dans son coin, c'était vraiment mondial. Alors, les nombres de paramètres en fait, qui peuvent être mesurés simultanément, là, vous retrouvez ici, je pense que vous pouvez voir ma souris, vous reconnaissez ici la plongée que je vous ai montrée tout à l'heure, et c'est là où on voit en fait que ce n'est pas du tout un événement isolé, c'est des plongées qui se répètent d'une manière générale à droite et en haut pardon, sur le graphique, mais on peut également avoir d'autres types d'informations comme des accélérations dans les axes dorsaux-ventraux ou bien dans les axes antérieurs-postérieurs. Et donc ça nous donne un peu une vision des mouvements, du type d'activité, de la posture de l'animal sous l'eau. On peut mesurer la température en bleu, on peut mesurer plein d'autres paramètres et donc avoir une vision complète de ce qui se passe quand l'animal est en mer. Et plus récemment, les progrès qu'il y a eu dans le téléphone portable, la téléphonie mobile, font qu'on dispose d'outils technologiques qui nous permettent de toujours multiplier le nombre de capteurs et le nombre de paramètres que l'on peut mesurer. Alors ici, c'est juste une illustration en fait pour vous montrer que depuis ces petites échelles historiques que j'essaie de vous montrer, on est passé de systèmes qui étaient simples à des systèmes très complexes, qu'on a multiplié effectivement la résolution temporelle, le nom, la résolution des paramètres aussi, à quelle résolution ils sont mesurés, le nombre de sensors, bien sûr, le nombre de capteurs et le nombre de capteurs en parallèle également. Mais tout ça est allé de pair en fait avec une miniaturisation qui fait qu'on est passé de modèles comme ceux que je vous décrivais, des cachalots, des phoques, des animaux assez gros, à des animaux de plus en plus petits. Et vous verrez tout à l'heure que le shellfish, enfin le coquillage, ce n'est pas le plus petit qu'on ait dans la gamme. Donc c'est aussi un marché en expansion, forcément, puisque de plus en plus de gens veulent en utiliser. Donc on a de plus en plus de compagnies qui s'intéressent à fabriquer ce type d'appareil. Alors vous voyez ici, en 2009, j'avais fait un petit tour d'horizon des différents fabricants. Et on voyait à l'époque que la moitié du marché quasiment était dominée par Wildlife Computers, la compagnie américaine que Jerry Coyman avait fondée avec Roger Hill dans les années 60. En deuxième position, il y avait donc les Japonais avec Little Leonardo. Donc, Little Leonardo, c'est bien le Leonardo da Vinci hein, duquel ils ont pris le nom. Mais ils ont quand même rajouté Little parce qu'ils disaient qu'à côté du vrai Leonardo da Vinci, ils se sentaient moins importants et moins novateurs. Toujours est-il qu'ils ont mis au point des systèmes qui ont pendant très longtemps aussi été un véritable, je dirais, une véritable source d'innovation pour de nombreuses équipes. Alors après, voilà, ça se dispatchait dans différentes compagnies allemandes, italiennes, anglaises. Si je remettais à jour, je pense que les compagnies italiennes, notamment d'Axi, comment ça s'appelle, Technosmart, seraient bien proéminentes, puisqu'ils ont réussi en fait à faire des appareils qui combinent un nombre de paramètres importants dans une taille, on va dire, accessible pour un grand nombre d'animaux et surtout qui sont fiables. Donc, eux ont pris un peu une part du marché. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même une grande partie du marché qui est pris par ce qu'on appelle les appareils en fait faits sur mesure, qui sont donc là dans des laboratoires, dans des universités, fait d'équipes qui n'ont pas forcément vocation à produire par la suite d'autres appareils en série. Et donc, ça reste encore une source d'innovation qui est très forte. Et donc, à l'heure actuelle, si on regarde le nombre en fait de compagnies qui s'intéressent à faire du biologging, à faire des appareils de biologueurs, on voit qu'on a explosé complètement et que y a un choix, je dirais, pour celui qui veut creuser un petit peu, qui est absolument étonnant par rapport à un marché qui reste quand même assez limité quand on y pense. Alors, la miniaturisation, j'en parlais tout à l'heure, hein, voilà quelques exemples qui ne sont pas encore une fois les tout derniers qu'on puisse imaginer, mais vous voyez déjà qu'on arrive à mettre des appareils qui font, je dirais, pas mal qui font le boulot, hein, comme on dit, sur des animaux volants, sur des animaux de petite taille et très profilés hydrodynamiquement, afin de limiter justement l'impact que ces appareils ont. Mais je parlais tout à l'heure, alors là, on sort du domaine du marin, parce que le biologging n'est pas que marin, mais est né dans le marin et a une grosse influence dans le marin. Mais on voit qu'il a réussi à intéresser aussi des gens qui travaillent sur d'autres modèles. Et les insectes, maintenant, sont parfois équipés d'appareils enregistreurs, comme on le voit sur cette image. Et qui peuvent donc aller, pareil, dans la nature, en fait, prendre des informations qui sont ensuite téléchargées par les utilisateurs. Là, vous avez un exemple sur un hanneton d'une caméra. Donc, une caméra qui va prendre des images vues par l'insecte. Et ça vous donne un peu une idée, je dirais, du niveau incroyable de technicité que l'on arrive maintenant à produire. Alors, je vous parle de la miniaturisation parce qu'effectivement, une des données importantes du biologging, c'est que c'est à l'origine fait par des biologistes, donc des gens qui ont quand même une certaine éthique vis-à-vis de l'animal, sinon ils ne seraient pas biologistes, qui s'intéressent à limiter l'impact qu'ils ont sur l'individu. Et on se retrouve en fait avec ce triangle, ce que j'appelle un triangle à quatre côtés, puisqu'on est, selon le modèle que l'on étudie, confronté à un choix entre le type de mémoire et le type de batterie qu'on veut mettre, la durée, ce qui représente en fait la durée pendant laquelle on veut accumuler des paramètres et le nombre de paramètres que l'on peut mettre sur cette mémoire, qui va déterminer en fait la taille du biologueur. Et quand on joue sur un de ces paramètres, on joue aussi sur la taille de l'animal que l'on peut équiper. Alors pour les modèles volants, il y a eu des études qui ont dit que 3% du poids de l'animal, c'était la limite qu'il ne fallait pas dépasser. Ça a été remis un peu en question selon le type d'animal, selon sa capacité de charge notamment. Donc en fait, ce que l'on recommande plutôt maintenant, c'est de dire qu'il faut adapter et étudier en fait au cas par cas quelles sont les limites à ne pas dépasser. Lorsqu'on est sur des animaux qui nagent, là c'est plutôt le profilage de l'animal qu'il ne faut pas déranger, parce que vous voyez en fait que très très rapidement, si on met quelque chose sur le dos d'un animal qui est profilé, on va gêner la traînée en fait que cela génère. Et ça peut augmenter en fait sa dépense énergétique de manière très conséquente. Et il faut pour vous donner un ordre d'idée, là, un manchot papou tel que le modèle est représenté dans cette image, ça avait à peu près le sans appareil sur le dos, ça a à peu près le coefficient de traînée d'une pièce de 1 euro que l'on traînerait sur la tranche. Donc c'est vraiment des effets de traîne qui sont négligeables. L'animal est vraiment adapté à minimiser ces effets de traîne, mais par contre, dès qu'on lui colle quelque chose sur le dos, là, forcément, on change la situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la chronologie récente? Donc, en 97, pardon, on s'en fiche, c'est juste que je suis arrivé au Japon, mais je ne sais pas pourquoi c'était là, désolé. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt en 2003, parce qu'en fait, le terme « biologging » est né en 2003, lorsque l'Institut national polaire japonais a décidé d'organiser un symposium sur ce sujet des appareils qui enregistrent des données et qui voulait un peu regrouper tous ces gens-là pour qu'on se fédère, pour qu'on ait une vision commune. Donc c'était à ce moment-là qu'il a fallu trouver un nom. Le patron a demandé à ce que... Donc le patron, c'était le professeur Naito, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a demandé à ce qu'on trouve un nom pour fédérer les gens. Et c'est là que le terme biologging donc, est né. Alors à l'époque, il y avait à peu près 52 personnes qui avaient été invitées, tous des biologistes marins, ou presque. Et c'était donc très, très marin à l'époque, au point qu'un des noms qui avait été retenu avant biologging était Marine Zooscience. Bon, je suis bien content finalement qu'on soit passé à biologging, parce que ça a permis de s'affranchir de milieux et de modèles qui étaient assez restreints quand on pense uniquement à Marine Zooscience. Donc, le deuxième symposium du biologging a eu lieu en 2005 et là a été organisé par le Sea Mammal Research Unit au Royaume-Uni. Et en fait, à ce niveau-là, on restait quand même très marin, comme vous pouvez le voir. L'Institut polaire, c'était le groupe des prédateurs marins qui organisait. Là, le Sea Mammal Research Unit. Ensuite, en 2008, toujours pareil, le biologging 3, c'était... c'était à Santa Cruz, c'était, ça y est, le nom m'échappe, l'Université de Californie, Santa Cruz, donc qui organisait et qui restait, comme vous pouvez le voir sur l'image, encore très marin. En 2011, le Biologging 4, organisé par le CSIRO en Australie, et en 2012, on a eu un livre CNRS sur les Sensors for Ecology, dans lequel le biologging avait un chapitre dédié. Donc, le terme commençait un petit peu à s'infiltrer dans le tissu national en France. En 2014, on a organisé en France, à Strasbourg, le cinquième symposium. Et là, résolument, on a voulu mettre, et dans le logo, ça s'affiche assez clairement, que le biologging, ce n'était pas seulement marin, et que donc, on voulait, on a séparé en fait en deux, en terrestre et en marin, les talks. On voulait vraiment une représentation en fait parallèle de ces deux approches. Et ça a été plutôt bien perçu, puisqu'on a eu, effectivement, là, on n'était plus à 52 personnes comme le symposium numéro 1, on était plutôt à 400, 500 personnes, mais on a dû limiter, en fait, puisqu'on n'avait pas une salle assez grande pour accueillir plus de gens. Et à ce niveau-là, ce qui était intéressant aussi de voir, c'est qu'il y avait des journaux, on a publié les proceedings du BLS5 dans des journaux qui étaient vraiment dédiés à ce type d'approche. Animal biotelemetry, alors on a bien essayé de leur dire que nous, c'était du biologing, mais ils avaient déjà choisi le nom avant, et Movement Ecology, qui devenaient des journaux un peu dédiés à cette catégorie de chercheurs qui utilisaient des appareils donc, embarqués sur les animaux. Et puis, on a commencé aussi à en parler dans des médias, je dirais, grand public, et c'est là où le terme biologing, finalement, commence à diffuser et à être repris par le grand public, et ça sert en ricochet pour les gens qui font du biologing, parce que justement, ils ne parlent plus d'une chose cryptique, mais de quelque chose qui est reconnu même par le commun des mortels, comme on dit. Alors, suite au biologing 5, en 2017, il y a eu le biologing 6 à Constance, donc en Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la Société internationale du biologing a été créée et qui continue encore aujourd'hui à tourner. Le BRS7 était revenu un petit peu dans le côté marin, malheureusement. C'était les Américains qui l'organisaient à Hawaï. Et surtout, ce qui était décevant, c'est que déjà, il a dû être repoussé d'une année, mais il s'est finalement tenu uniquement en virtuel, comme beaucoup de réunions dans ces derniers temps. Voilà, c'est un petit peu dommage, parce que ça a perdu, je dirais, un momentum qui était assez intéressant. En BLS6, on avait eu plus de 800 personnes. Donc, on est vraiment en train de prendre une dimension importante. Avant que je passe, le BLS8 aura lieu, je pense, en 2024, mais ce n'est pas encore confirmé. Ce sera par contre au Japon. Donc, retour à la case Japon, donc organisé toujours par l'Institut polaire japonais. Peut-être avec la société de biologing japonaise. Donc, alors la base, oui, alors là, je vais peut-être aller un peu vite, hein, c'était juste pour montrer quelques exemples, mais on a dit qu'il fallait que ce soit court. Donc, latitude, longitude, temps, ce sont les paramètres de base que l'on prend, qui permettent notamment d'avoir, comme ici, des suivis d'année en année et pendant une année d'animaux qui vont aller utiliser, par exemple ici, des manchots adélie, la glace de mer et puis l'eau ouverte, soit dans les polynices, soit au-delà de la banquise. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a maintenant beaucoup de gens qui font ce travail, on peut commencer à faire des analyses rétrospectives de toutes les données de suivi de tous ces groupes de travail, donc sur plusieurs espèces, et arriver à avoir des couvertures, comme vous pouvez le voir ici, de l'ensemble de l'océan austral, quasiment, avec des données de suivi de ces animaux. Et ça nous permet donc de déterminer en fait les zones qui sont utilisées par plusieurs espèces en même temps, parce que s'il y a plusieurs espèces qui utilisent la même zone, ça veut dire que non seulement l'air qu'ils utilisent est riche en proie, mais elle est surtout riche en proie variée. Et donc, ce sont des zones qui sont importantes à protéger. Donc là, vous voyez ici les aires marines protégées acceptées en orange et en devenir, ou en tout cas qui sont proposées en rose dans l'océan austral. Et ça nous permet de donner des conseils aux conservateurs pour leur dire, ben voilà, c'est plutôt là qu'il faudrait mettre vos aires marines protégées, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait les dimensionner, etc. Dans les capteurs standards, il y en a aussi d'autres qui sont un peu plus récents, on va dire, c'est l'accélérométrie, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, parce que l'accélérométrie, elle donne accès en fait à un grand nombre d'informations, la posture, mais aussi les angles de plongée, donc on peut en déterminer dans certains cas, la vitesse de nage, on peut mesurer les battements des ailerons sur un manchot, par exemple, ce qui permet en fait, de tirer d'autres indices, secondaires qui sont, par exemple, le taux de rencontre de proie ou des choses comme ça. Alors, ça, je vais passer, c'était juste des exemples justement d'accélération. Vous voyez ici, par exemple, que dans une plongée classique d'un manchot, on a des battements qui sont en général assez réguliers pendant que l'animal descend. S'il ne rencontre rien, les battements restent réguliers. Par contre, lorsqu'il rencontre quelque chose, on voit un changement dans la fréquence et dans l'amplitude des battements. Et donc ça nous permet effectivement de détecter les endroits où on pense qu'il y a eu une rencontre de proie ou un évitement de prédateur. Et ça nous permet surtout de mesurer, en fait, je passe très vite, hein, excusez-moi, l'énergie que les animaux peuvent dépenser, puisque une grande partie de l'énergie que l'on dépense est due à nos mouvements. On voit qu'il y a des corrélations qui sont assez fortes entre l'énergie que l'on mesure, soit par au doublement marqué, soit par chambre respirométrique, et celle qui est estimée par les accéléromètres. C'est intéressant parce que ça marche très bien chez certains animaux, moins chez d'autres. Donc, c'est pareil, ça ouvre des questions nouvelles sur pourquoi est-ce que ça marche bien à certains endroits, pourquoi est-ce que ça marche moins bien à d'autres. Il y a des moments où on peut se dire très, très facilement, ben, c'est lié à la température interne de régulation de l'animal ou d'autres choses comme ça. Il y a d'autres cas où on est beaucoup moins clair sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Mais en tout cas, après, il y a, oui, alors, je vais quand même prendre un peu de temps ici. Quand on veut avoir justement accès à l'énergie et savoir combien de proies sont prises, il y a des systèmes qui existent comme les systèmes de mesure de la température interne de l'animal lorsque l'animal est à l'endotherme et qu'il se nourrit de proies froides, puisque ça induit une baisse de température à chaque fois qu'il avale une proie. Et donc, il y a des sensors, des capteurs qui peuvent être mis dans l'œsophage, dans l'estomac, pour essayer de voir un peu les chutes de température et donc de reconstruire les proies qui sont ingérées. Alors, c'est restreint aux endothermes qui mangent des proies ectothermes, puis c'est surtout très lourd à mettre en place. D'autres systèmes, comme les mouvements de bec, donc avec des petits aimants et un capteur Hall qui va mesurer en fait de l'autre côté de l'aimant la fréquence l'intensité du champ magnétique, ça permet de reconstruire les mouvements d'ouverture du bec et donc de savoir quand est-ce que la proie est ingérée, mais aussi la masse de la proie lorsque l'on regarde en fait la durée d'ouverture du bec qui est bien corrélée encore une fois à la taille de la proie. Et ça, c'est une méthode qui est applicable chez les espèces marines, mais pas que. On l'a testé aussi chez des espèces comme les chiens, les chats, les sangliers, etc. Et avec pas mal de succès. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez difficile à mettre en œuvre avec des câbles, avec des appareils qui sont près de la bouche et donc qu'il faut mettre sur des animaux lorsqu'ils sont anesthésiés. Donc, ce n'est pas non plus un panacée. Et c'est pour ça qu'on revient en fait à des systèmes qui sont sans câble, qui vont être par exemple des sonars, des micro-sonars, qui vont permettre de détecter les traces des poissons devant la bouche de l'animal, et donc avec une dynamique de voir si la proie a été ingérée ou pas. Alors ça reste des systèmes qui sont assez gros, donc qui ne peuvent pas encore aller sur des petits animaux comme ce qu'on a vu tout à l'heure, comme des manchots par exemple, et qui sont, mais qui, bon, on peut espérer qu'il va y avoir de la miniaturisation, même si là, la difficulté, ce n'est pas tellement les batteries, les piles, la mémoire, mais c'est plutôt le capteur en lui-même, puisqu'il faut un faisceau en fait, qui soit suffisamment grand pour avoir une vision intéressante et utile de ce qui se passe devant l'animal. Et la taille du faisceau est corrélée en fait, à la taille du capteur. Donc là, on a une limite un petit peu technologique. Mais en tout cas, sur des grands projets comme le projet Sentinels of the Sea Ice, ou le CNES qui investit beaucoup là-dedans, on a des systèmes où on peut effectivement mesurer pendant les plongées la température, mais également, vous voyez tous les points noirs ici, ce sont les tentatives de capture de proie par des phoques. Alors là, je vais aller plus vite parce que c'est aussi du terrestre, hein, juste pour montrer qu'on s'intéresse à des multicapteurs sur des animaux terrestres qui vont mesurer la fréquence cardiaque ou le CG, des vidéos et des GPS de haute précision. Alors là, c'était pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'ECG notamment, parce qu'on avait essayé de mettre une montre polaire sur Gisèle, qui était un vautour de Rocamadour, de la volerie des aigles de Rocamadour, et on voulait voir en fait sa fréquence cardiaque. Donc on s'est dit, bah, pourquoi ne pas mettre les montres polaires classiques que les sportifs ont pour voir ce qui se passe. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsque l'animal était à son perchoir, on pouvait arriver à avoir une valeur à peu près correcte de la fréquence cardiaque. Par contre, dès qu'ils étaient en vol, c'était trop bruité pour qu'on puisse être sûr de ce qu'on mesurait. Donc, on est passé à des systèmes d'ECG, où là, on va mesurer vraiment le battement par battement, toute la dynamique du battement. Vous voyez le complexe PQRS du battement cardiaque ici. Et donc, si on est capable de reconnaître automatiquement ce complexe, on est sûr qu'on mesure bien un battement cardiaque et pas autre chose. Et vous pouvez voir que le système ici est relativement robuste, puisque sur le graphe du haut, vous avez les battements d'aileron d'un oiseau, et sur la période suivante, il est en train de planer. Pardon, pas battement d'aileron, battement d'aile. Et le signal reste à peu près classique, enfin visible. Et donc, ça nous permet d'avoir accès à une vraie fréquence cardiaque et donc à une vraie dépense énergétique. Et ce système, on l'a essayé sur des oiseaux plongeurs marins, donc des fous du Cap, On l'a essayé sur des koalas, on l'a essayé sur des mandrilles, et donc sur Gisèle également. Et donc là, on a pu reconstituer un véritable circuit de dépenses énergétiques en regardant ces battements du cœur. Donc le point de départ, c'était ici, là, l'étoile noire. Vous voyez ici, Rocamadour est situé sur cette pente ici. Et donc, en fait, Gisèle est partie faire ce que font tous les vautours, c'est-à-dire des spirales pour monter jusqu'à plus de 1000 mètres d'altitude parfois. Et puis, en couleur sur ce circuit, vous avez la fréquence cardiaque de l'animal, donc 350 battements par minute lorsqu'il est en décollage, lorsqu'il est en train de battre très fortement des ailes pour prendre justement son envol. Et par contre, très rapidement, on tombe à des 100 battements par minute, qui est en fait à peu près équivalent à ce que Gisèle a lorsqu'elle est sur son perchoir au repos. Vous voyez ici, vu d'une autre manière, la fréquence cardiaque en bleu, l'altitude en rouge. Et vous voyez en fait, donc, au moment du take-off, du décollage, et lorsqu'elle est en train de marcher pour retourner vers son perchoir, que c'est les moments les plus stressants. Là, elle passe au milieu des humains, elle est en train de se dandiner. Par contre, lorsqu'elle est en haut dans le ciel, elle se retrouve en fait au même niveau que lorsqu'elle est sur le perchoir ici. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote sur les animaux terrestres. Là, je reviens sur des animaux marins où en fait effectivement les vidéos sont très importantes puisqu'elles nous ont donné aussi accès à de nouvelles informations sur non seulement quand est-ce qu'une proie a été ingérée, mais aussi le type de proie ingérée. Donc là, on a eu des poissons qui peuvent être reconnus en fait grâce à leur nageoire par des experts et donc savoir quel type de proie sont capturées. On peut faire aussi du social, puisqu'on arrive à voir quels sont les individus qui sont autour de l'animal équipé lorsqu'il est en chasse en mer. Et surtout, alors ici, on ne le voit peut-être pas très bien, mais en bas, vous avez un bateau. Et donc, ça nous permet en fait de savoir si ces animaux s'approchent des bateaux, de quel type de bateau, et surtout si ces bateaux sont vraiment autorisés dans la zone. Donc ça, je reviendrai un petit peu dessus plus tard. Et là, il y avait quoi ? Ah oui, il y avait une citation en fait qui me plaît beaucoup, puisque c'était quelqu'un qui, dans les années 60, disait ce serait peut-être même possible un jour de mettre des caméras automatiques sur ces animaux pour qu'ils nous ramènent des informations sur ce qui se passe dans le mystère des profondeurs. Et ce gars-là était assez visionnaire, hein, c'était le commandant Cousteau en 74, c'était pas dans les années 60, pardon, c'était dans les années 70. Je pense qu'il aurait été content de voir que sa prédiction était effectivement réalisée. Alors, cette idée en fait, d'équiper les animaux pour voir ce qui se passe dans leur milieu, ça a donné lieu à des systèmes nationaux d'observation comme le système MEMO, un OSU, sur lequel les animaux sont utilisés comme des plateformes océanographiques. Donc ici, vous avez par exemple, entre Kerguelen à gauche et le continent antarctique à droite, des informations prises sur les trajets des éléphants de mer qui vont donc jusqu'à 2000 mètres de profondeur et qui traversent cet énorme océan en prenant à chaque fois des informations sur la température en fonction de la profondeur. Donc vous voyez que ça peut permettre de reconstruire des diagrammes de masse d'eau qui sont assez intéressants. Et on peut le faire avec de la chlorophylle, on peut le faire, comme je le disais, avec le sonar, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des profils océanographiques au sud de 60 degrés sud de latitude sont échantillonnés par des phoques austroux. Donc, ce sont vraiment des auxiliaires qui sont très utiles pour améliorer nos modèles. Et, comme je le disais avec le bateau tout à l'heure, on peut utiliser donc aussi ces animaux pour servir en fait de contrôleurs des pêches, c'est-à-dire qu'ils vont aller lire les balises de système d'identification automatique des bateaux qui permettent, notamment dans l'océan austral, hein, maintenant, de détecter les pêcheries illégales en temps quasi réel, puisque les informations sont transmises via données satellites une fois enregistrées. Voilà. Alors, ça, c'était, on va dire, ce qu'on connaît, un peu de classique. Et demain ? Alors, demain, là, on est en train de se pencher sur des systèmes d'écophysiologie où on va mesurer ce qui se passe en fait dans le cerveau des animaux en plongée. Donc, essayer de comprendre un petit peu. En voyant les électroencéphalogrammes des animaux, quand est-ce qu'ils rencontrent des proies, quand est-ce qu'ils sont activés, quand est-ce qu'ils ont des systèmes un petit peu, le système sensoriel finalement de l'animal et comment il se relie à ce que l'animal expérimente. Oh, je commence à fatiguer, ça se sent là. Ce que l'animal voit, perçoit et reçoit de son milieu. On a aussi l'Internet des animaux. Hein, ça, c'est justement avec toutes ces informations qui s'accumulent à grande vitesse, ces systèmes, on va dire, presque de big data qui sont en train de se mettre en place. Tout un Internet d'informations prises par les animaux qui est en train d'être créé. Notamment des programmes comme Icarus qui n'en finit pas d'être ralenti puisqu'il dépend essentiellement des Russes, donc je ne ferai pas l'affront de vous dire qu'en ce moment c'est un petit peu difficile pour le projet Icarus de continuer à fonctionner, mais ce sont des systèmes qui ont une vision très globale, très, très, très concentrée des données et donc qui seraient très intéressantes de suivre dans les années à venir. Et puis il y a pour tout ce qui est marin, les soft skin loggers. Donc des loggers qui sont en fait non plus rigides, mais que l'on peut plaquer sur la peau des animaux, qui donc réduisent effectivement l'hydrodynamisme, l'impact du logger sur l'hydrodynamisme de l'animal, qui sont aussi, je dirais, moins visibles, donc peut-être moins impactants aussi pour les animaux. Donc, est-ce que j'ai mis demain, mais en fait, c'est déjà aujourd'hui, puisque ça, c'est des systèmes qui existent. Il faut savoir que le biologging, c'est vraiment quelque chose qui permet de nourrir, je dirais, l'imaginaire des technologies et des gens qui créent de nouvelles techniques, parce qu'on leur pose des cols pas possibles. On leur dit, je veux travailler dans le noir à moins 50 degrés, je veux travailler à des altitudes extraordinaires, je veux des gradients de température qui vont passer de plus 50 à 5 degrés, enfin, tout ça, ça stimule en fait la création de nouvelles technologies et c'est quelque chose qui est absolument génial pour toutes les personnes que je mentionnais tout à l'heure, les Little Leonardo, les Wildlife Computers, ce sont vraiment des génies à qui on a posé une colle et puis qui se sont amusés à les résoudre. Donc, il faut qu'on continue à rêver et à avoir des idées un petit peu, je dirais, qui peuvent paraître loufoques au début, mais qui, en tout cas, vont générer de nouvelles technologies qui sont très importantes. Je crois que j'en ai terminé, donc merci à vous. Juste quelques mots pour dire, voilà, tout ce que je vous ai montré, ce n'est pas uniquement de mon fait, hein, c'est des travaux qui sont faits avec énormément de gens, j'en ai cité que quelques-uns ici, mais c'est vraiment une pléthore de collègues, d'amis et aussi, bien sûr, d'institutions. Là, je me suis amusé à mettre tous les acronymes, parce que comme ça, ça me faisait aussi une bonne base pour voir un peu avec qui on échange. Et puis, bien sûr, tous les animaux à qui on fait ça, encore une fois, je dirais les cow-boys du biologging, on essaie de les limiter au maximum. L'idée, ce n'est pas de faire des coches et d'avoir le plus d'animaux possible équipés, mais c'est vraiment à chaque fois de se dire qu'est-ce que cet animal va nous apporter comme information, notamment des informations qui peuvent nous servir à sa conservation, à le protéger. Et puis, pas mal d'illustrations étaient du fait de Lohan, qui est venu faire un stage de master avec moi sur justement le biologging, parce que c'est le mot qui l'a attiré. Et elle est venue donc illustrer ce que je lui ai raconté sur le biologging. Et maintenant, ça me sert dans mes présentations. Voilà, merci à vous.